Et dans deux minutes sur Equinox Radio avec Leslie, c'est parti pour Le Cercle, l'émission de référence de l'actu barcelonaise, spéciale politique française ce soir avec le député de la 5e circonscription des Français de l'étranger en interview, Arnaud Leroy, interview exclusive Equinox Radio, et les réactions de tous les leaders politiques, ça arrive juste après ça.
Merry Christmas. C'est déjà Noël chez Stop and Drive. Stop and Drive, la seule auto-école française de Barcelone, t'offre les frais d'inscription, passe ton code de la route et ton permis 100% en français à Barcelone, à 5 minutes de la gare de Sants. C'est plus simple.
C'est plus simple.
C'est plus rapide.
C'est plus rapide.
Et c'est moins cher qu'en France. Plus d'infos sur astopanddrive.com.
À Barcelone. À Barcelone. À Barcelone. Les produits français vous manquent ? Une seule solution, une seule adresse. Chez vous, la seule boutique 100% produits français à Barcelone. Orangina, sirop de grenadine, beurre salé ou jambon de Paris, ça se trouve à la boutique chez vous. Chez vous. Chez vous, espace à réserver pour des fêtes privées. Chez vous, espace dégustation avec plat du jour sur place ou à emporter. Chez vous, rue de Girona 98 à Barcelone.
En plein cœur de Barcelone, la Air Boutique. Un lieu au top de la tendance avec coiffure, espace beauté, musique et ambiance lounge. La Hair Boutique, c'est Véronique, ancienne directrice artistique de TG Haircare d'Anthony Mascolo et responsable d'un salon Tony & Guy. Depuis 7 ans, la Hair Boutique coiffe, relook, embellit le Barcelone cosmopolite. La Hair Boutique, c'est place Aragonière 5 dans le gothique de Barcelone, juste derrière la mairie. Du mardi au samedi de 11h à 20h. Réservation 93 269 19 37.
Tu n'as pas de voiture à Barcelone? C'est pas un problème. Fais-toi un car sharing avec Avantcar. Aller chercher des meubles pour un déménagement ou aller chercher des amis à l'aéroport, Avantcar est la solution. Dispose d'une voiture louable à l'heure ou à la journée, à moins de 10 minutes de chez toi ou de ton travail. Avantcar, c'est à partir de 6€ de l'heure. Et inscris-toi sur le avantcar.es/Equinox et chope 45€ gratuite de location.
Equinox Radio, Le Cercle, l'émission de référence de l'actu barcelonaise.
On est avec Arnaud Leroy, le député de la 5e circonscription des Français de l'étranger. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir.
Et Leslie également qui est là, qui va poser les premières questions sur la circonscription. On parlera également de la jeunesse, puisque c'est un terme qui est cher au président de la République et au député Arnaud Leroy. On posera les questions nationales et internationales. Et on commence avec Leslie et les questions liées à la circonscription.
Vous avez déclaré sur les combats qui restent à mener que la question de l'emploi reste primordiale. Et via votre réserve parlementaire aux finances actuelles, une étude de faisabilité afin de développer l'entrepreneuriat au Portugal. Où en est ce test?
Écoutez, le test vient d'être élargi pour une période de 6 mois. Donc ça se fait avec France Initiative, qui est une association très reconnue en France, qui a créé beaucoup d'emplois, qui a lancé beaucoup d'entrepreneurs. Donc l'idée, c'est de voir si on peut prendre ce modèle-là sur, pour l'instant, le projet test fait au Portugal, sur la péninsule ibérique. Donc avec une condition, c'est de s'appuyer aussi sur des partenariats locaux. Donc par exemple, Caritas. Donc c'est un peu l'idée. On est en train de voir ça. On a eu quelques débuts d'informations. Il reste encore pas mal de choses à faire, parce que vous avez une tradition dans chaque pays. Venir tout bousculer, venir avec nos gros sabots, commencer le faire, nous les Français, en sachant qu'on sait mieux que les autres. Donc on essaie de voir ce qu'il est possible de faire. Ça sera à destination de tout le monde, parce que vous savez qu'on peut pas flécher sur les Français de l'étranger. Donc on mettra quand même un petit focus, hein, mais je veux dire, ça sera pas que pour ça. L'idée, c'est de démontrer que ce qui a marché en France peut se développer aussi en dehors de France, en Espagne, au Portugal. Et j'espère vous remettre un rapport dans 6 mois qui sera intéressant.
Quelles sont vos relations avec le conseil consulaire de Barcelone et les différents conseils de la circonscription?
Écoutez, mes relations sont, quand je suis sollicité, je réponds, parce qu'on travaille quand même en complémentarité. Moi, je suis des élus nationaux, c'est des élus locaux. Donc moi, je m'appuie sur les informations qui me sont remontées. Donc il y a des élus dont je suis le plus proche, parce que c'est quand même une élection qui avait une connotation politique. Donc je suis informé de cette façon. Là. Et on s'est vu, notamment lors de l'AFE, j'ai rencontré les différents conseillers consulaires de la circonscription qui sont à l'AFE. Donc moi, je suis ouvert et à l'écoute de tous ces conseillers qui veulent travailler, donc sans prêter attention aux divergences et aux différentes étiquettes politiques. Donc voilà, c'est dit. J'ai toujours fonctionné comme ça, ça continuera.
Alors maintenant, des questions sur la jeunesse. Vous êtes un jeune député, le président Hollande avait fait campagne sur la jeunesse. 34% des jeunes Français veulent s'expatrier pour des raisons professionnelles. On accueille ici à Barcelone des plus grandes communautés françaises au monde. Est-ce qu'on conseillerait aux jeunes de rester en France ou plutôt de venir tenter l'expérience professionnelle à Barcelone?
Écoutez, moi je l'ai fait moi-même, donc du coup je ne vais pas dire aux Français rester en France. Je ne pense pas que ça marche de toute façon comme ça. Là, vous avez une génération qui a été formée, peut-être encore plus que la mienne. Nous, on était les premiers, en tout cas les moins de 40 ans, à faire des études parfois à l'international via Erasmus, apprendre des langues, et aussi pour des raisons tiennent au pays, vouloir partir pour tenter autre chose, parce que les responsabilités sont parfois reconnues beaucoup plus facilement chez un jeune de 25 ans français dans un pays étranger qu'en France pour un jeune de 25 ans avec des diplômes qui est cantonné à un travail où il ne peut pas s'épanouir. En tout cas, c'est une vraie question que moi j'ai mise plusieurs fois sur la table. C'est une des raisons moi qui m'ont poussé à m'expatrier. Après, vous savez qu'une étude a été rendue récemment à l'Assemblée nationale, parce que c'est un sujet polémique, cette affaire de l'exil soi-disant des forces vives. Il faut savoir que les Français sont encore largement derrière les Anglais et les Allemands en termes d'expatriation de leur jeunesse. Donc on a essayé, notamment via la création des conseils consulaires, de se rapprocher aussi de ces communautés. Pendant très longtemps, on avait des représentants dans les pays qui étaient principalement dans les grandes villes. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus proche des communautés, en les responsabilisant, leur donnant quelques moyens. Ça crée aussi des tensions aussi avec la tradition consulaire, il ne faut pas se le cacher. Mais on est en train d'essayer de construire cette relation de diaspora, je pense qu'il faut oser le terme, pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. Donc, à savoir, ceux qui partent peuvent conserver un lien, éventuellement revenir, et s'ils veulent commercer, travailler avec la France, donc vous savez que tout le monde cherche des points d'appui pour les relais de croissance à l'export, ça peut être un élément important.
Aujourd'hui, la politique paraît complètement décrédibilisée, soit en France, soit en Espagne, chez les jeunes. C'est une véritable lame de fond. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes pour leur redonner le rêve politique ?
Moi, je me suis engagé en politique parce que j'aime pas qu'on décide pour moi. Et que globalement, vous avez deux questions en face de vous. C'est la démocratie, donc comment fonctionne la démocratie ? Deux, c'est comment je peux y participer ? On rejoint complètement ce rejet de la politique, le dégoût qu'on peut avoir. C'est clair que c'est pas extrêmement ragoûtant tout ce qui se passe actuellement. Mais si la jeunesse, notamment, s'investit pas, on trouvera jamais de solution en Europe. C'est un continent qui vieillit. Si on prend pas en main la destinée, notre destinée, faut pas croire que certaines générations le feront pour nous. Il y a un conflit générationnel latent, larvé, qui existe en Europe. Il faut l'assumer. Moi, je l'assume. Et j'appelle la jeunesse à réfléchir à ça. À aussi rentrer dans les débats, s'impliquer, prendre des décisions, bousculer les choses. Si c'est sous une forme associative, tant mieux. Si c'est sous une forme politique, tant mieux. Mais il faut pas laisser le champ libre. Après, je reconnais qu'il y a des limites, que les gens disent, c'est pas mon milieu, j'ai pas envie, ça me donne pas envie, c'est plutôt dégoûtant. Oui, mais... Si personne n'y va pour nettoyer, on s'en sortira jamais.
Merci Leslie pour ces questions. Donc on va passer aux questions un petit peu plus politiques et aux questions sur la France et ici en Espagne. Lors du vote de la confiance à Manuel Valls, vous l'avez voté du bout des lèvres sans accorder ni blanc-seing ni bénédiction. Si on en croit le magazine Les Échos, ils ont rapporté ces paroles. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui face à l'exécutif ?
Écoutez, moi je reste un député de la majorité. Je dis simplement que, un, il faut travailler avec tout le monde, qu'on a été élu sur une conception, une vision de la société et qu'on est en droit de vouloir la défendre. Donc c'est un peu mon combat. Moi, j'ai émis ces doutes-là parce que je pense qu'on va, on fait pas les bons choix en termes d'équilibre dans les 40 milliards, notamment du pacte de responsabilité. Donc c'est pour ça que j'ai émis ce commentaire, en sachant que lors du premier vote de confiance sur le gouvernement Valls 1, on avait eu des mots lors du discours du politique général, et moi je crois aux mots, qui nous faisaient croire qu'on aurait une coproduction beaucoup plus marquée avec l'Assemblée nationale. On n'en est pas là, donc c'est un peu l'idée derrière ces propos.
Vous êtes qualifié, même si vous n'aimez pas ce terme, par la presse française de frondeur. Imaginons que demain, vous soyez d'un coup nommé Premier ministre ou ministre de l'économie. Quelle serait votre politique économique idéale ?
Idéale, je pense qu'il y a des choses qui sont en place qui sont intéressantes. Le problème, c'est qu'on voit que la marche forcée pour la réduction des déficits ne fonctionne pas. Et j'ose dire que ça n'a pas fonctionné au Portugal ni en Espagne. Donc j'assume ces propos. Ça fonctionne pas non plus en Grèce. On me dit aujourd'hui, regardez la croissance. Oui, c'est sûr, le pays est à terre. Donc on va reconstruire un minimum de choses parce qu'on n'a pas pu entretenir les routes, les infrastructures pendant des lustres. Donc oui, il y aura certainement un minimum de croissance. Est-ce que c'est ce type de croissance de survie quasiment qu'on veut ? Moi, je pense pas. Je pense pas que la France soit en attente de ça. Une des politiques à mettre en place, c'est le rééquilibrage des choix qui ont été faits. À savoir, l'aide aux entreprises, oui. Est-ce qu'on peut faire mieux avec moins ? Moi, je pense que oui. Est-ce que AXA, Auchan ont besoin d'être aidés via le CICE ou le pacte de responsabilité ? Je pense pas. L'idée, c'était de s'équiper, de s'armer pour pouvoir élargir notre socle de PME, créer et renforcer les ETI, donc autant cibler vers ces sociétés-là. On a un retard majeur sur le parc de robots en France. Donc moi, je pense que c'est un plan qu'il faut financer et qui est une urgence. Donc voilà le style de priorité. La question de la réduction des déficits, oui à la question de à la réduction des déficits. À quel rythme ? Je pense qu'il faut ralentir un tant soit peu, parce que là, on est en train de tuer la croissance, ne serait-ce que le maintien de l'activité. Ce n'est pas pour faire un plan de relance où on serait inondé de produits asiatiques, comme on nous le dit souvent. Ça, c'est, je pense, une vision un peu datée. La question aujourd'hui, c'est de maintenir un niveau de consommation qui fasse qu'on ne soit pas dans les chiffres qui ont été publiés hier, l'explosion de la paupérisation en France, qui est une donnée, hein, c'est l'INSEE, donc c'est pas du tout quelque chose, c'est pas un rapport d'une quelconque ONG qu'on pourrait qualifier d'exotique. Là, c'est des données officielles. Donc on a intérêt à faire ça, d'éviter la ponction fiscale supplémentaire, donc ça c'est un sujet également. Avec le fameux enveloppe de 40 milliards, on est quelques-uns, et l'ancien ministre de l'économie en est l'avocat, à vouloir parler de 3/3, donc redistribution en 3 enveloppes de ces fameux 40 milliards.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que pour vous, les mots étaient importants. On entend des voix en France qui s'alarment contre l'austérité. Pour les auditeurs qui nous écoutent, l'austérité en Espagne, c'est quand même la baisse des salaires des fonctionnaires, c'est des coupes massives dans la santé, c'est la retraite à 68 ans, il n'y a quasiment aucune aide sociale. Ça, c'est l'austérité. Quand on parle de l'austérité en France, on a quand même l'impression d'en être bien loin. Est-ce que ce terme d'austérité n'est pas un petit peu exagéré dans l'économie française ?
Mais écoutez, il est peut-être exagéré avec des yeux d'Espagnol. Après, quand vous êtes en France, chacun voit midi à sa porte. C'est que les personnes qui aujourd'hui sont dans la difficulté, qui n'arrivent pas à payer leur logement, leur loyer ou leur facture, qui doivent faire des choix, savoir manger de la viande 2 fois par semaine ou 1 fois, ça, en France, c'est vécu comme un risque d'austérité. Et moi, je fais bien la distinction. Je dis simplement, on n'est peut-être pas en austérité, mais on est quand même dans une politique très rigoureuse. Et on est à la marge de l'austérité. La question de l'austérité, c'est, au-delà de ses conséquences, c'est est-ce que ça a marché ou pas ? Là, les Français se rendent compte que ça n'a pas marché. Partout où ça a été effectué, on voit très bien, la France aujourd'hui reçoit beaucoup de personnes issues de l'Espagne ou du Portugal qui viennent chercher du travail en France, qui veulent s'établir. Donc on voit très bien l'exode qu'il y a eu sur la jeunesse formée et non formée au Portugal comme en Espagne. Donc les gens sont conscients de ça. Donc nous, on veut éviter ça. Donc on n'est pas dans un comparatif à dire nous, il y a plus d'austérité, moins d'austérité. C'est qu'on veut surtout éviter de mettre le doigt dans un engrenage. Vous cassez la recherche publique, vous cassez l'innovation, vous cassez l'école, vous cassez la santé, espérance de vie qui va diminuer au Portugal liée aux ponctions faites sur le régime de santé. Donc ça, c'est quand même des sujets. Donc en France, on a choisi de geler pas mal de prestations. Il faut qu'on mesure les impacts de ce qu'on fait également. Donc la redistribution, oui, mais une vraie redistribution. Qu'il faut absolument éviter que certaines personnes coulent. Donc c'est ça, aujourd'hui, le débat en France. Sans faire porter toute la masse des efforts sur la classe moyenne et la classe moyenne supérieure.
Vous parlez de la vision d'un Espagnol. Justement, transition sur la Catalogne. Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport au processus indépendantiste ?
Écoutez, un sentiment de spectateur. Ça a l'air quand même... C'est une donnée quand même qui devient de plus en plus prégnante dans la vie politique espagnole et surtout catalane. Je vois chaque jour se tendre un petit peu la question. Donc on a eu ces résultats du 9 novembre. Ces derniers jours, la question de la Fiscalia qui poursuivrait Mas pour des affaires de corruption, en tout cas détournement d'argent, j'ai pas encore très bien compris la chose, donc ça prend une dimension quand même très forte. Moi, la question qui me taraude, c'est comment on va se sortir de ça ? Parce qu'on regarde, c'est quand même une région frontalière de la France. Il y a quand même une continuité culturelle avec une partie de la France. On est soucieux que tout ça se passe bien. C'est aussi un élément important en termes de relations économiques. C'est un partenaire important pour les régions frontalières. Vous savez qu'en France, on est en train de réviser la carte des régions. On met en place des grandes entités. On a eu quelques soubresauts régionalistes, mais vraiment très, très, très marginaux. Donc c'est intéressant de voir un petit peu la différence.
On en parlait avec Leslie tout à l'heure sur le renouveau un petit peu politique, etc., etc. Donc de nombreux auditeurs ont eu cette idée, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, de faire un jeu de questions-réponses où vous devez répondre par oui ou par non à des questions, ou alors répondre avec un seul mot. Bref, des questions directes et des réponses directes. Est-ce que vous pensez qu'un jour le débat sur la loi Taubira, sur le mariage gay, prendra fin ?
Écoutez, elle a pris fin. Il a pris fin, ce débat. La loi a été adoptée, elle a été publiée, elle est appliquée, point barre. Après, si vous avez des personnes qui veulent en faire un totem pour un combat, bon, c'est leur affaire. Moi, le débat est clos. Le débat est clos. Toute autre indication, proposition, promesse, c'est du vent. C'est du vent. Moi, je suis atterré de voir qu'une partie de la campagne à droite se joue là-dessus. Et je suis ravi des propos de Bruno Le Maire. qui a été le seul honnête sur cette question. Parce qu'à un moment donné, il faut parler d'honnêteté. Quand on parlait tout à l'heure de la crise politique, c'est ça aussi le sujet. Il faut arrêter de dire ce que veulent entendre les gens pour leur faire plaisir dans une salle, qu'elle soit de 1500, 2500 ou de 5000 personnes. Donc ceux qui prennent des positions sur la Taubira les assumeront si un jour ils reviennent au pouvoir.
Tout à l'heure, vous disiez que le Parlement n'était pas assez associé aux réformes. Est-ce que vous êtes un petit peu inquiet quand vous entendez les nombreuses voix à droite ou à gauche qui demandent une réduction du nombre de députés, ou est-ce que vous pensez que c'est sain de réduire le nombre de parlementaires ?
Moi, je suis pour la réduction du nombre de parlementaires. Je suis pour qu'on ait plus de moyens, pour qu'on puisse faire un travail sérieux, que de contrôle de l'exécutif, d'études, de mesurer les impacts, de proposer des contre-expertises. Ça, c'est le travail d'un parlementaire. Aujourd'hui, c'est extrêmement dur de faire ça, voire impossible. Vous devez être le MacGyver politique pour pouvoir avoir des données, contredire quelque chose parce que ça vous est asséné comme une vérité établie. Et ça, c'est important qu'on arme le Parlement de ces outils. Donc, oui au nombre réduit de députés. Par contre, oui à plus de moyens.
Donc vous êtes d'accord avec Henri Guénot quand il avait dit « Je suis député, je n'ai pas assez de moyens, mon salaire est trop bas, ça pourrait me rendre dépressif ?»
Écoutez, moi je ne parle pas du salaire du député, je parle des moyens qui nous sont alloués. Donc on a une enveloppe sur laquelle moi je ne peux pas toucher. À part embaucher mon fils, ma fille ou ma femme, c'est le seul moyen que j'aurai à titre personnel d'avoir accès à cet argent. C'est une enveloppe qui est consacrée à notre activité de député pour notamment se payer des collaborateurs. Vous en avez rencontré mes collaborateurs, ou parfois prendre quelqu'un sur une mission très précise, mais cet argent-là, on ne l'a pas. Donc moi, ce que j'ai surtout retenu de l'intervention d'Henri Guénot, c'est qu'il se plaignait de son salaire. Donc c'est sûr, quand vous êtes quasiment 20 000 euros à l'Élysée et que vous arrivez à 5 600 à l'Assemblée, voyez où est le pouvoir.
Vous avez parlé de « on, les députés et au futur ». Serez-vous candidat en 2017 dans cette cinquième circonscription des Français de l'étranger, si elle reste en l'État ?
Si elle reste en l'État, rien n'est interdit. La question, c'est de savoir, va-t-elle rester en l'État ? Donc je me... déterminerai en fonction de ça. Si on arrive, comme ça semble être un petit peu le cas, cette question de la réduction du nombre de députés est quand même enfourchée par beaucoup de leaders, que ce soit le président de l'Assemblée lui-même, le président de la République et les principaux leaders de l'opposition aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que c'est quand même une réalité. Donc est-ce que je serai candidat sur une circonscription Europe du Sud allant du Portugal jusqu'à la Turquie ? Je ne le sais pas. Est-ce que ça sera encore comme ça que les Français étrangers seront représentés à l'Assemblée nationale ? On ne sait pas. Écoutez, laissons courir le mandat jusqu'en 2017 et on jugera.
Alors, imaginons en 2017, le candidat de la droite face à vous. Quel est, selon vous, le meilleur candidat de la droite pour cette circonscription ? Raphaël Chambat, Richard Ancès, Laurent Saillé ou Jean-François Berthe ?
Écoutez, Laurent Saillé a disparu.
On ne disparaît jamais en politique.
Ah, je pense que ça va changer. Je pense que ça va changer, ça. Parce que moi, je pars du principe qu'on est en train d'évoluer. Donc les personnes ne veulent plus des personnes élues pendant 45 ans. Donc ça, vous le voyez, on l'a vu au municipal. Et j'ai du mal à croire que vous allez avoir comme ça des personnes qui pourront venir, partir, faire un spectacle en disant « je ne vous ai jamais vraiment quitté ». Ça, j'y crois pas. Donc ça, je laisse la droite choisir son meilleur candidat. Il y aura fort à faire.
Est-ce que vous allez un jour vous réconcilier avec le Front de Gauche ?
Écoutez, moi, pas de problème métaphysique avec le Front de Gauche. Après, je suis un député de la majorité, j'assume. Voilà. Donc, moi, je suis ouvert à la discussion, et pas à l'invective, pas à la propagande, et pas au populisme. Voilà.
En 2017, est-ce que vous soutiendrez François Hollande s'il se représente ?
Tout est ouvert.
Alors justement, tout est ouvert, on parle de primaire actuellement. Si Arnaud Montebourg était candidat à une primaire, est-ce que vous soutiendrez Arnaud Montebourg ?
Évidemment.
Et justement, pour finir, ce sera la dernière question. Un collaborateur d'Arnaud de Montebourg a dit dans Libération « Arnaud Leroy a pris cette année du poids et de l'influence. Est-ce que vous êtes puissant et influent à Paris ?»
Écoutez, moi j'ai toujours dit que le député gagnait ses galons à Paris. Donc ça m'a valu quelques critiques au début du mandat, en expliquant que si on voulait faire passer certains messages pour les Français étrangers, il fallait pas qu'on soit lobbyiste, mais acteur comme les autres députés de la vie politique nationale. Donc je suis ravi qu'il pense ça de moi. Après, je ne sais pas si je suis influent ou puissant ou quoi que ce soit, j'essaie de faire mon travail le plus sérieusement possible, avec ce que ça veut dire parfois de positionnement un peu à la marge, notamment sur les questions budgétaires avec les frondeurs. C'est de la politique. C'est la grande différence avec certains autres niveaux de représentation des Français étrangers. Vous êtes dans la politique nationale. Donc vous ne pouvez pas vous extraire de ça. Vous pouvez toujours dire les Français étrangers, les Français étrangers, les Français étrangers. Si vous ne pesez pas dans l'équation nationale, dans le débat national, vous apparaissez comme un lobbyiste et vous ne faites pas avancer grand-chose.
Merci Arnaud Leroy d'avoir été sur Equinox Radio.
Merci beaucoup.
L'émission de référence de l'actu barcelonaise.
Le Cercle sur Equinox.